Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Vanessa Krisev.
Bonjour Julien.
Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette année 2022, le podcast 2030 Glorieuses est à nouveau et j'ai beaucoup de chance. Il est soutenu par la NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Vanessa, toi, tu es la fondatrice et directrice générale du Réchaud. C'est un projet solidaire mené par des cuisinières professionnelles qui a pour but de créer du lien et développer le vivre ensemble par la cuisine. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, au 5 Toits. C'est un centre d'hébergement porté par l'association Aurore dans le 16e arrondissement. Et nous discuterons forcément de cuisine, mais aussi de solidarité, du sens de l'accueil et de la richesse du lien interculturel. On commence notre échange, Vanessa, toujours de la même manière. Maintenant, c'est une habitude dans 2030 Glorieuse. Tu arrives dans un endroit où il y a plein de gens que tu ne connais pas. Tu commences à engager la conversation avec une personne et vient fatalement cette question. Et toi, Vanessa, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Je suis bien embêtée.
Avec toutes tes casquettes.
Eh bien, je pourrais me définir comme actrice, déjà. Actrice du changement, entrepreneuse militante pour la restauration du monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, je suis à la tête de ce projet qui est un projet de cuisinière qui voudrait que les gens se parlent autour de la table et restaurer les hommes en restaurant le monde, ce qui signifie faire en sorte que la cuisine aujourd'hui soit un moteur de restauration des écosystèmes, et par écosystème, j'entends évidemment l'humain et la nature et le respect du vivant. Donc c'est pour cela que j'œuvre au quotidien.
Et c'est là où moi je suis bien embêté, parce que toi qui as l'habitude de présenter ton projet, qui as l'habitude de défendre cette cause-là, non, au contraire, tu arrives à mettre tous les mots-clés, tu as ta présentation qui permet de donner une image assez rapide de tout ce que tu es en train de faire. Je vais quand même revenir un peu en arrière, parce que tu as dit plein de choses intéressantes sur le réchaud, mais dans ta manière de définir, tu sais, la porte d'entrée de 2030 Glorieuses, c'est vraiment une porte d'entrée métier. Et donc si on essayait de caractériser concrètement le métier que tu fais, qu'est-ce que ça serait de plus que d'être directrice? Qu'est-ce que ça serait de plus que d'être fondatrice? Restauratrice solidaire, c'est pas suffisant.
Hein. Ça me fait penser, j'ai fait un test. Non, alors restauratrice, je sais pas, parce que je suis en cuisine, mais je suis surtout en coordination générale d'un projet. J'ai fait un test débile là, l'autre jour, pour savoir quel type de personnalité j'étais. Et je suis tombée sur, il me semble, inspiratrice. Un truc comme ça. Et donc, en fait, je crois que si je peux me servir de mon énergie pour entraîner, pour fédérer, pour rassembler et pour partager, alors ça me va bien. Maintenant, il y a plein de manières de le faire. Et je pense que le projet du réchaud permet d'une journée à l'autre de le faire, mais différemment.
Ouais, c'est ça. Donc même si effectivement tu as les mains encore dans les casseroles de temps en temps, j'imagine, dans les produits, et que tu as cette légitimité-là, en tout cas cette compréhension des enjeux que porte le réchaud. Tu es aussi son porte-voix, tu es aussi sa messagère, hein, c'est ça?
Oui, et son influenceuse.
Ouais, c'est ça.
J'espère.
Sa stratégiste presque, hein, dans l'idée de définir un cap, c'est ça?
Oui.
Ouais. Et donc le réchaud, tu l'as très bien dit, votre devise, c'est restaurer les mondes en restaurant les hommes. C'est peut-être d'ailleurs restaurer le monde
en restaurant les hommes avec un H majuscule.
C'est en devise dans l'excellent restaurant où j'ai eu la chance de manger juste avant notre interview. Comment vous y parvenez concrètement? Est-ce que tu peux m'expliquer un tout petit peu plus les entrailles du réchaud, s'il te plaît?
Mm-hmm. Bon, déjà, je ne sais pas si on y parvient, en tout cas on y travaille, c'est un vrai chemin. Déjà, c'est se poser des questions. Le démarrage, il est là. La première question, c'était ça veut dire quoi dans notre monde actuel l'hospitalité? Ça veut dire quoi aujourd'hui l'hospitalité en Europe et en France? Et comment on est témoin actif de ce qu'on appelle la crise de l'accueil? Donc cette première question, c'est la cuisine comme moteur de restauration du vivant et donc... En premier lieu, d'hospitalité, quand on invite des hôtes à partager un repas, comment on le fait, comment on sait encore le faire ou pas en France. Ensuite, il y a une grande question sur la restauration des écosystèmes. Comment, dans un des secteurs les plus polluants du commerce, un métier de transformation qui est énergivore, qui est simplement polluant, comment est-ce qu'on fait différemment? Et comment est-ce qu'à terme, on pourrait, en mangeant, on a certains qui disent que manger, c'est voter, comment est-ce qu'on pourrait, simplement en mangeant, créer de l'impact positif et n'être plus qu'impact positif? À partir du moment où on commence à se poser cette question-là, on met le doigt dans un truc compliqué. De A à Z, c'est compliqué parce qu'on n'est pas dans un monde qui facilite ça. Et on est dans un métier qui demande de la ressource, qui demande de l'énergie, qui travaille avec un certain nombre d'intrants, qui est régi par aujourd'hui des lois, des conventions, des agréments, qui sont parfois eux-mêmes travaillés par des lobbies qui font de l'inception à l'envers. Enfin, je veux dire, quand on lit les normes HACCP et qu'on entend ou qu'on lit qu'il faut nettoyer à la javel, mettre de la javel dans l'eau de décontamination des légumes, c'est aussi savoir résister, c'est aussi savoir s'interroger, là encore, sur est-ce que c'est des recommandations qui est derrière, quoi. Et quand je décide de ne pas faire quelque chose, de l'assumer, quoi. Donc c'est un résumé, un travail de questionnement, de résistance et de militantisme.
Et donc cette cuisine, ça, effectivement, est à la source de tous ces mots que tu viens d'évoquer, mais ça peut être aussi quand on inverse le prétexte de cette hospitalité, de cette remise au centre du vivant, avec son respect, avec l'émerveillement qu'il mérite.
Mais la cuisine de base, enfin, on parle surtout aux Français ou aux Italiens de la cuisine,
c'est notre vie.
C'est notre vie, c'est ouais, le partage, c'est n'importe quel événement, heureux ou malheureux, se joue autour de la table. N'importe quelle réunion pour fédérer des acteurs se fait autour de la table. Manger, je pense que dans l'histoire de l'humanité, c'est là où se jouent les plus grands moments. Donc, dans l'imaginaire collectif, manger, se rassembler autour de la table, et dans la réalité, c'est un acte de joie, c'est un acte festif, c'est un acte de plaisir. Quand on rentre dans le monde de la restauration, alors là, il y a des nouveaux enjeux qui émergent. Pour être dedans et peut-être privilégié, en tout cas, on peut vite être dégoûté par ce métier. Je parle même pas de l'événementiel et de la partie traiteur. Là se posent vraiment les questions quand on rentre dans les coulisses de cette production. Ben oui, parce que déjà, qu'est-ce qu'on met dans l'assiette? Qu'est-ce qu'on donne à manger au consommateur? Qu'est-ce qu'on donne à manger au client ou à l'hôte? Déjà là, manger ou nourrir, c'est à la fois un acte de vie, mais c'est aussi un acte qui peut être un acte d'empoisonnement et de meurtre. Et de meurtre ou de vie de la personne qui mange, mais de la denrée qui est cuisinée, quoi. Et c'est pour ça que cette question de respect du vivant, elle est centrale, je pense.
Et là, tu as parlé juste de ce qu'on sert, parce que tu n'as pas parlé du transport, du stockage, de qui le fait, de qui le sert, de qui le récupère, de ce qu'on fait des restes, etc., etc. Et là, c'est là où tu vois que l'engrenage, en fait, il est infernal du
début jusqu'à la fin de la chaîne. C'est très moribond, quoi. La cuisine aussi, c'est violent. Et donc, comment on concilie les coulisses et le spectacle ? Bah là encore, en se posant des questions et en décortiquant. Donc déjà, comment ? Je pense que c'est en respectant ce qu'on cuisine, en respectant les équipes qui cuisinent et en respectant le client. Et donc, ça passe par des produits à impact positif, par des personnes qui ont produit, donc des humains en fait qui sont derrière, donc acheter à des producteurs en direct, à des artisans qui eux-mêmes à leur échelle travaillent pour restaurer la terre, pour restaurer les sols, pour restaurer les écosystèmes.
C'est ce que vous faites dans votre restaurant des 5 toits, donc.
Bien sûr, nous on est triplement labellisé ici par Écotable. Et on est en cours de labellisation, on ne l'a jamais demandé, mais depuis le début, on est en grande, grande, grande majorité sur de l'agriculture biologique. Donc, on a demandé, là, les labels EcoCert Bio AB. Du coup, les personnes qui sont derrière, que ce soit sur du vin ou que ce soit sur de l'élevage... On peut faire de l'élevage, même bovin, avec un impact positif et non polluant. Par contre, c'est sûr que quand on va prendre du cochon de méga ferme, où les cochons ne sont même plus des animaux vivants, mais simplement déjà des barquettes en plastique et sans vie, c'est à la fois hyper triste et je vois pas comment ça peut rapporter de la vie à la personne qui consomme derrière. Baisser la part de l'animal, l'impact de l'assiette, c'est 70 ou 80% de l'impact d'un restaurant. Qu'est-ce qu'on choisit de mettre en part végétale, en part animale dans l'assiette ? Ça a un vrai impact. Et aujourd'hui,
avec
il y a
vous,
des études.
Un menu où il y a deux entrées, deux plats, et quoi qu'il arrive, il y a forcément une alternative végétarienne.
Qui ne soit pas une simple assiette de salade verte.
Et le plat, et qui est souvent même mise en avant, puisque votre formule, elle intègre forcément l'option végétarienne.
Oui. Oui. Bon, il y a aussi tout un travail de pédagogie à faire derrière, mais qu'on montre aux personnes, et c'est ce qu'on fait aussi quand on fait nos ateliers de cuisine collaborative, qu'on peut faire du végétarien gourmand, joyeux et festif, ça fait partie aussi de la mission qu'on s'est fixée. Donc, baisser la part de l'animal, réfléchir aux fluides qu'on utilise en cuisine, réfléchir à la carte et comment on gère l'énergie en cuisine, la ressource, l'eau, avec quoi on nettoie. Il y a aujourd'hui la possibilité de nettoyer aussi bien avec du vinaigre, du savon noir qu'avec des produits qui ont une liste d'excipients très mauvais pour l'eau et pour la planète. Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question ? Mais des questions tout court. Hein. Quand on a ouvert ici, on s'est dit, serviette en tissu ou serviette en papier ? Quand on se penche sur la problématique du restaurateur...
Du nettoyage ensuite.
Du coton blanchi, des nettoyages quotidiens, une serviette qui va mourir au bout de 50 ou 60 lavages et qu'il va falloir racheter.
Ça fait beaucoup de questions. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de questions et on peut très bien être paralysé devant toutes ces questions. D'autant que vous, en plus de l'impact, je me permets d'aller un petit peu vite parce que c'est cet engouement pour ces sujets écologiques, c'est un vrai engouement, hein. c'est pas surjoué cet engouement que tu as là, mais c'est peut-être pas ce qui fait concrètement le cœur du réchaud. Parce qu'en fait, dès qu'on pousse la porte de votre restaurant, tout de suite, on voit bien qu'il y a quelque chose de différent, d'inhabituel, dans le bon sens du terme, parce que les personnes qui nous accueillent ne sont pas des personnes qu'on retrouverait dans un restaurant classique. Est-ce que tu peux m'expliquer ça ?
On est entreprise d'insertion et le réchaud, enfin la table du réchaud, donc notre restaurant est né du projet associatif Le Réchaud. Et Le Réchaud, c'était la volonté de cuisiner ensemble pour restaurer le monde. On en est toujours sur la même notion, mais ça se faisait en tout cas avec une forme d'itinérance. On allait sur les camps de réfugiés, on continue à aller dans les centres d'accueil pour tisser du lien social et solidaire entre populations locales et accueillies grâce au pouvoir fédérateur de la cuisine. Donc c'est une forme d'aide alimentaire qu'on souhaitait apporter, mais détournée puisque ça se fait ensemble et ça se déguste ensemble. C'est peut-être là la partie la plus importante de l'aide alimentaire, c'est de réhumaniser aussi l'aide alimentaire, remettre l'humain au cœur. Donc, la table du réchaud, elle découle de ce projet d'insertion, enfin d'inclusion sociale. Et l'insertion professionnelle vient en volet rattaché à l'inclusion sociale. Et aujourd'hui, on a donc une cuisine qui se fait avec... on a 6 personnes réfugiées dans notre équipe qui apprennent aussi bien le métier de la salle que de la cuisine. Et il n'y a pas de social sans écologie, donc on leur transmet cette cuisine à impact pour en faire les restaurateurs du monde de demain. Et que... demain, ils soient embauchés dans un cursus plus classique, dans des restaurants plus classiques, en ayant cette conscience.
Et vous avez un axe plaidoyer presque, je ne sais pas s'il est voulu et assumé à ce point-là, mais qui est très fort, parce que là, on pousse la porte des 5 toits, qui est donc ce lieu géré par des associations, avec une volonté d'accueil, des personnes vulnérables, des migrants, etc., etc. Donc du coup, il faut quand même avoir une certaine sensibilité, ou le faire vraiment par le plus pur des hasards que de pousser cette porte, que d'entrer dans celui-là. C'est quand même assez rare. Vous avez en plus la vertu presque pédagogique d'aller dans des milieux où on vous attend moins, parce que vous êtes traiteur, parce que j'imagine que vous organiser des événements, parce que vous devez aussi faire la nourriture dans des entreprises. Tu me racontes un peu ça?
C'est pour le coup employer la cuisine comme un catalyseur de lien social et d'utiliser cette chose de plaisir. Ça permet de ramener vers soi des publics qui ne viendraient pas, qui ne pousseraient pas cette porte, ou dans les entreprises qui n'ont absolument pas la conscience de la valeur sociale de ce qu'ils consomment. Et simplement, ils viennent vers nous parce que c'est bon. Et moi, je trouve ça hyper intéressant, en fait, de filouter un peu et de faire venir des personnes parce qu'on va avoir, je sais pas moi, une star de la cuisine demain qui vient animer une masterclass chez nous et que les personnes se retrouvent sensibilisées à la question de l'accueil par ce prisme-là. Ça nous permet de toucher un public pas forcément acquis à la cause, pas forcément engagé ni militant, qui vient pas du milieu associatif, mais des personnes qui sont des jouisseurs, qui sont parfois totalement ambivalents et ambigus sur la question, sur les questions qui nous animent et qui nous font avancer. Donc, je trouve que c'est très intéressant et on n'arriverait pas à faire la même chose sans la cuisine. Et sans une cuisine, même plus qu'une cuisine, sans une gastronomie ou une bistronomie joyeuse. Enfin, vraiment cette question de la joie et de la rencontre.
Quand on me pose la question de par où commencer sur ces sujets de l'action éco-citoyenne et de la construction des mondes de demain, une réponse que je fais souvent, c'est de suggérer à la personne qui me pose cette question de commencer par l'endroit qui lui fait le plus du bien, par sa passion, par ce sujet sur lequel elle est capable de mettre des heures sans s'en rendre compte. Vous, en fait, c'est exactement ce que vous faites. La cuisine qui est fédératrice, qui est universelle, qui, en l'occurrence, en particulier pour nous les Français qui sommes quand même capables de parler de nourriture alors qu'on est en train de manger, et ben, en fait, on rentre forcément par le plaisir et on lie cette notion de plaisir hein, vraiment ancrée en nous à ces questions d'engagement écologique, d'engagement social, si bien que vous, aujourd'hui, c'est presque devenu un prétexte, une sorte de... J'ai pas envie d'utiliser un vocabulaire guerrier, mais en tout cas, vous avez un peu ces événements éclaireurs comme ça qui vous permettent de fédérer tout un tas d'organismes, d'écoles qui sont pas du tout normalement engagés sur ces sujets hein, ou prononcés pour le moins sur ces sujets et de les faire happer comme ça le sujet solidaire, le sujet écologique.
Ouais, mais oui, non, mais je pense que c'est pas un gros mot et que c'est un prétexte et que ça aurait pu être un autre prétexte parce que, enfin, une association que j'admire énormément, il s'appelle Singa, elle a un programme passion en fait et passion, c'est mettre en lien des personnes qui ont la même passion. Donc nous, notre vocation au départ, c'était pas de dire on va sur le camp de la Linière à Grande-Synthe et les 70 personnes qui participent à l'atelier collaboratif vont vouloir s'insérer par la cuisine ensuite sur le plan professionnel et de, enfin. Mais par contre, c'était de tisser un premier lien, un premier dialogue, de délier les langues, de faire en sorte d'entendre les histoires des uns et des autres, de réhumaniser. Et ça peut se faire par mille autres prismes, ça peut se faire par le théâtre, ça peut se faire par la musique, ça peut se faire par la danse. Il y en a plein des associations qui font un travail identique, enfin, et formidable. La question de la table, c'est que il y a les coulisses où on produit ensemble, mais il y a le moment où on s'assied autour de la table où quelque part on est passif et que si on n'a même pas envie de faire un effort physique, disons, pour réaliser quelque chose, mais en tout cas on peut profiter d'un repas qui aura été cuisiné par des personnes de toutes origines, de toutes cultures, et qui viennent partager un bout de leur histoire par ce prisme-là. Donc en étant même passif, on vote 3 fois par jour, en mangeant 3 fois par jour, et bien là on vote doublement parce qu'on vote aussi pour une société différente, plus inclusive, et avec un management différent quoi, dans la pensée globale.
Tu nous as déjà très bien présenté le réchaud, ça donne envie, j'en suis sûr, aux personnes d'aller en savoir plus sur Internet, notamment votre site Internet met en avant des recettes, il y a des vidéos qui sont très bien faites pour voir les différents impacts que vous avez eus, positifs. Est-ce qu'il y a quand même, et c'est ma dernière question dans le présent, est-ce qu'il y a, après toutes ces années d'engagement hein, déjà avec le réchaud, une fierté particulière qui te, voilà, que tu chéris et que tu as envie de nous partager? Je te vois lever les yeux, ça veut dire que tu plonges dans tes souvenirs.
Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors,
c'est pas sympa de ma part de te demander de choisir, je le sais.
Non, mais des fiertés d'intégration, d'insertion, oui. Enfin, là, il y en a une qui me vient, ça remonte à 2016. On a rencontré sur le camp de Grande-Synthe, qui est donc, enfin, Grande-Synthe, juste pour resituer en deux mots, c'est le passage le plus court entre la France et l'Angleterre. Donc, ça a été un lieu, et c'est encore un lieu d'attente pour des centaines de personnes qui stationnent en essayant, dans des bateaux de fortune, de traverser, ce qui est dramatique, mais qui est un autre sujet. On a rencontré, donc, là, des personnes, dès 2016, qui souhaitaient passer en Angleterre. À l'issue des 3-4 semaines de mission qu'on a fait sur le terrain, Mustapha, qui était avec nous tous les jours pour cuisiner, nous a dit avec beaucoup d'émotion que si on pouvait l'aider à obtenir ses papiers, il voudrait rester et il voudrait s'intégrer par la cuisine. Ça a été compliqué, mais on a réussi et il s'est retrouvé embauché chez Akram Ben Halal, qui était un des premiers chefs à nous soutenir. Et au bout d'un an et demi, il est passé de la cuisine à la salle dans son restaurant Shirvan. Et ça fait partie des grands, grands moments d'émotion, en fait. Quand on arrive dans ce restaurant très, très chic, au pied des Champs-Élysées, hein, quasiment, et qu'on a un beau jeune homme qui parle un français quasi parfait, et qui 2 ans plus tôt était, même à peine 2 ans plus tôt, était sur le camp de la Linière, et qui assume le service, et qui est épanoui à cet endroit-là, oui, c'est une immense fierté. Il y en a plein. Il y en a plein d'autres. Et il y a une autre petite histoire qui me venait en tête, c'est quand on a ouvert ici le premier été, donc en juin 2019, en juillet, j'avais une petite dame âgée qu'on voyait tous les jours prendre son verre de vin blanc et manger son petit plateau de fromage à l'heure de l'apéro. Et je me suis approchée parce qu'on a un programme dans l'association visant les personnes seniors, qui s'appelait à l'époque partage à domicile. Et donc les personnes réfugiées venaient porter un repas à domicile des personnes seniors et l'idée était de manger ensemble et de déguster ensemble. Mais les personnes seniors étaient invitées à ouvrir leur porte. Et quand j'en ai parlé à cette petite dame, elle m'a dit « Ah oui, c'est intéressant, mais est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut leur faire confiance ?» Et je trouvais ça extraordinaire que cette personne vienne tous les jours regarder les enfants jouer dans la cour, être entourée de ces personnes-là et revienne, en se posant quand même des questions, mais elle était là. Et c'est là aussi où ça vient reboucler avec la question des personnes ambivalentes, parfois méfiantes, mais qui peuvent basculer assez facilement d'un côté ou de l'autre.
Avec une activité qui est récurrente et qui leur permet de se forger une opinion.
Voilà, de baisser la barrière, de baisser la frontière. Quand on a ouvert la porte de la caserne, avant qu'on ouvre la porte de la caserne sur les horaires du restaurant, la caserne donc, qui est un centre d'accueil, de septembre à juin, la porte était fermée et l'entourage avait rebaptisé cet endroit la caserne des migrants. À partir du moment où les portes sont ouvertes, c'est un autre imaginaire qui est là et on a moins peur. Il y a moins de frontières, moins de barrières et moins de peur quand les portes sont ouvertes.
Vanessa nous parle des 5 toits. Si vous voulez, parce que vous êtes de passage à Paris ou parce que vous habitez à Paris, y faire un tour, n'hésitez pas. Il y a un atelier de réparation de vélo, il y a un excellent restaurant, il y a plein d'autres choses à découvrir. Et l'ambiance est vraiment, vraiment enthousiasmante. On va partir d'ailleurs en 2030 glorieuse où des lieux comme celui-ci seront complètement normalisés. On fera même plus attention. Mais avant ça, il y a toujours une petite parenthèse que l'invité nous offre à travers la littérature, à travers la lecture d'un passage qui la touche, te touche en particulier, parce que ça comporte cette vision une partie, en tout cas, de ta vision des 2030 Glorieuses. Qu'est-ce que tu nous as amené, Vanessa ?
J'ai amené les carnets de solidarité de Julia Montfort, que je salue au passage. Donc elle commence ce chapitre par une citation que je vais vous lire d'Olivier Favier. « Croire en la bonté des autres comme en la sienne n'est ni naïf ni immodeste, mais une manière de donner une chance au bonheur en misant sur le bien qu'on peut faire et non sur une idée du bien. » Un jour, une connaissance m'a demandé si je ne m'étais pas lancée dans l'accueil dans le seul but de me donner bonne conscience. Cette question m'a d'abord déstabilisée, mais... si cette personne me questionnait à nouveau aujourd'hui, je lui répondrais avec un peu plus de recul que si cela a effectivement soulagé ma conscience les premiers jours, réduire cet accueil à l'unique besoin de se donner bonne conscience m'apparaît bien réducteur. Faire le choix de l'hospitalité résulte d'une prise de conscience profonde et ne saurait être seulement l'expression d'une culpabilité, un genre de laisser-passer bobo autodécerné propre à se déculpabiliser de vivre si bien ici quand tout va si mal ailleurs. La démarche d'hospitalité est avant tout une réponse pragmatique à un sentiment de responsabilité vis-à-vis des populations vulnérables, en particulier les demandeurs d'asile, car ils font l'objet d'un rejet de la part de tout un pan de la société civile, de certaines formations politiques ou encore du gouvernement. La question de l'accueil est pourtant indiscutablement l'un des enjeux majeurs de ce siècle. Les phénomènes migratoires sont amenés à devenir massifs dans les décennies à venir. L'Organisation des Nations Unies évalue à 250 millions le nombre de personnes qui seront contraintes de migrer d'ici à 2050. Certains spécialistes tablent même sur le déplacement forcé pour cause de réchauffement climatique d'un à 3 milliards d'êtres humains. Sans même se projeter à une trentaine d'années, selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, 1% de l'humanité est déjà déracinée à l'heure où j'écris ces lignes, soit 79,5 millions de personnes. Parmi elles, 40% sont des enfants. Sur le terrain, loin des concepts et des grands discours, un élan de solidarité spontanée, semblable à celui que j'ai ressenti moi-même, vient répondre à l'énergie de survie des demandeurs de refuge. La conjonction de ces deux mouvements vient repousser les murs, exploser les barrières, refonder notre humanité commune et murmurer un nouvel ordre mondial au nom du respect de la dignité. L'hospitalité doit s'imposer comme une valeur primordiale et dès lors une richesse à préserver coûte que coûte.
Merci Vanessa pour cette lecture. Qu'est-ce qui te touche particulièrement dans ce passage que tu nous as lu ?
Ben, je pense que c'est parce que je partage très fort ce point de vue et je trouve extrêmement bien écrit, bien décrit, de manière très synthétique et puissante. Je pense que la question du respect du vivant et donc de l'hospitalité, c'est le nœud principal du siècle qu'on traverse. Et que si on remet du respect vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de tout être vivant, enfin et encore le vivant, on peut s'interroger aussi sur ce qu'est le vivant. Enfin, je pense que le monde aurait un tout autre visage.
Et justement, le monde a déjà un tout autre visage, puisque nous sommes en 2030 glorieuses. Les 2030 glorieuses, c'est pas un endroit rêvé et idéal où tout est beau, les oiseaux font cuicui et les méchants sont devenus gentils. Non, c'est un monde où on a quand même ensemble décidé de drastiquement changer la boussole qui mesure le succès de notre société. C'est un monde où on a décidé de reprendre notre place parmi le vivant, avec l'humilité, mais aussi la responsabilité que cela demande. C'est un monde où hospitalité et solidarité ne sont plus des gros mots. toi qui es en 2030 glorieuse avec moi, pendant les 20 minutes qui viennent, tu vas avoir la mission lourde et sérieuse de définir, de décrypter, de décrire ces 2030 glorieuses que tu vois, qu'on voit ensemble et qu'on va partager le temps de cet échange pour que les personnes qui nous écoutent puissent y voyager avec nous.
Tu vas me guider alors.
Bah, la première question, je te la pose quand même, c'est que maintenant, nous sommes en 2030 glorieuse, qu'est-ce que tu vois par la fenêtre ?
Déjà, je vois un monde plus vert.
C'est souvent ce que les gens nous disent, ouais.
J'ouvre la fenêtre et je respire mieux. Ça sent meilleur. Je suis très sensible aux odeurs et c'est un monde qui sent le frais. Non, c'est un monde où il y a clairement, on a remis des arbres, on a remis de la végétation, même au cœur des villes. Et donc de la vie. On a supprimé un certain nombre de véhicules polluants. On est sur de la mobilité douce et respectueuse.
On appelle même ça de la mobilité active maintenant. Ça montre que chaque citoyen, chaque citoyenne est active et proactive dans sa mobilité, puisque c'est vrai qu'une...
Quand on peut l'être. Après, pédale, on a aussi des personnes qui ont des mobilités absolument réduites, mais en tout cas... Je vois un monde où chacun est heureux d'être à sa place. Où il y a moins de nervosité, donc moins de frustration et moins de nervosité. Et on arrive mieux à concilier un besoin peut-être primitif à nos besoins contemporains et modernes. Grâce à la prise de conscience qu'il y a eu ces dernières années.
Il y a non seulement eu une prise de conscience, mais il y a eu une accélération hein, aussi de cette irrationalité climatique dont on est malheureusement à l'origine, avec de plus en plus de déplacements hein, en 2020, 2021, 2022. Les experts nous promettaient des millions de réfugiés climatiques et on les voit de plus en plus arriver. On sait aussi de mieux en mieux les accueillir parce que...
Mais réfugiés climatiques y compris sur le territoire français.
Absolument, ouais, absolument. Et on sait de mieux en mieux les accueillir parce qu'on ne les voit plus comme des fardeaux, mais au contraire, comme des bras pour récupérer les fruits et les légumes qu'on fait pousser en ville, comme des sachants, des experts qui nous amènent leur expertise architecturale, leur expertise en gestion de l'eau, leur expertise, parce qu'eux aussi, ils ont été depuis des dizaines d'années parfois soumis à ces... événements climatiques de plus en plus forts et que nous, en France, on commence à peine à toucher du doigt. Donc, on sent
mais
que...
Mais commence à accélérer aussi. Mais moi, je trouve ça assez...
Cette richesse, on l'aperçoit.
Ce que tu dis... Enfin, ouais, je trouve que jusqu'à présent, on identifie beaucoup les personnes exilées comme des personnes qui ont perdu quelque chose. Et je pense que tout changera, tout basculera quand on considérera ces personnes comme ayant quelque chose en plus à nous apporter, en étant des sachants.
Ce qui est le cas en 2030, Glorieuse.
Ce qui est le cas.
On les perçoit
maintenant,
comme des
en
sachants.
En 2030. Oui, c'est des personnes qui arrivent avec quelque chose en plus. Donc, qui ont des choses à nous apprendre, à nous transmettre. Et une vraie place qui doit leur être laissée.
Et le réchaud qui, il y a 10 ans, était un peu une exception qui tentait de concilier à la fois enjeux écologiques et enjeux de solidarité. Et aujourd'hui, largement copié. On en voit des réchauds partout en France.
Et oui. Et des restaurants qui n'ont plus besoin de se poser la question de leur approvisionnement aussi, puisque en 2030, le bio sera un minimum et qu'il y aura...
Ça sera l'agriculture conventionnelle d'ailleurs.
Ça sera l'agriculture... Il n'y aura plus de lobby, on aura réduit à néant les hydrocarbures et les FNSEA et compagnie. Non, on aura une agriculture, on aura une agriculture bio et largement développée
Ce qui veut dire aussi qu'il y aura beaucoup moins de machines, parce que ce serait une agriculture qu'on aura réussi à ramener à taille humaine. Et donc, à taille humaine, on aura besoin aussi de plus en plus de personnes pour repeupler les champs, pour retravailler dans les champs, et donc de plus en plus de main-d'œuvre. Et là encore, moi, je m'en rappelle parce que mes grands-parents étaient paysans et paysans d'autres pays. La main-d'œuvre, hein, les bras qui arrivent d'autres pays, on est bien content de les accueillir désormais.
Bien sûr, mais on était déjà bien content dans les années 60
on
de les
toujours été
oui, oui, on
de les
a
accueillir.
Été bien content par le passé aussi d'accueillir ouais, de vrai. La main-d'œuvre. Oui. Donc, une autre manière de produire et de consommer, des entités plus petites, de l'artisanat partout qui revient, des savoir-faire qui se transmettent, évidemment l'aide de machines parce qu'il en faut pour le quotidien et pour décupler les capacités de l'homme et pour la pénibilité aussi, on est heureux de nous, petit animal faible de la savane, de nous faire accompagner par des machines extrêmement puissantes, mais pas à tout va et n'importe comment. Ou alors d'avoir des machines qui permettent plus de temps libre, intelligent, qui permet aux personnes de passer du temps pour des questions d'hospitalité, de solidarité, de vivre ensemble, de soins et de bienveillance portés à l'autre, à la famille, aux enfants, d'éducation aussi, d'avoir plus de temps pour mieux nous éduquer.
Bien sûr.
Ça serait top.
Ce que tu dis est primordial, puisqu'à partir du moment où on a nos besoins de base qui sont assurés, alors on peut avoir la liberté mentale pour pouvoir se consacrer à d'autres sujets qui sont au moins tout aussi importants, mais malheureusement un peu moins prioritaires. Et donc, le fait, depuis 10 ans, d'avoir fait en sorte que l'accès à une nourriture de qualité soit facilité, moins cher, plus valorisé, mais aussi qu'il y ait eu, par exemple, je me rappelle, de certaines villes qui ont fait l'effort de distribuer des chèques alimentaires sous forme de monnaie locale complémentaire, de manière à ce que les gens puissent accéder à des produits de qualité, a beaucoup aidé les gens à réavoir une base solide et saine sur laquelle ils pouvaient s'asseoir, de manière à enfin à consacrer un peu du temps, comme tu le disais, à ces notions d'accueil, de régénération des écosystèmes, de régénération du lien, de régénération de l'hospitalité. Ce temps-là, le dégager, c'était nécessaire. Et aujourd'hui, on se rend compte que plutôt que ce qu'on nous promettait, c'est-à-dire d'avoir une oisiveté un peu crasse et qui allait malheureusement encore plus plomber notre société. Cette oisiveté, elle est utilisée pour aller vers l'autre,
pour se cultiver,
aller vers soi.
Pour aller vers soi, pour se cultiver, pour s'auto-cultiver, pour cultiver nos graines et ce qu'il y a de plus important. Je pense peut-être que le plus important est notre réel... enfin, les fondamentaux, en tout cas, de notre existence, c'est l'amour. Donc, plus on a de temps pour aimer, plus on a d'espace pour l'amour. Et on est, si on remonte 10 ans plus tôt, souvent pris dans des engrenages d'un monde en perpétuelle accélération et qui grossit à n'en plus finir jusqu'à... éclater peut-être, en remettant, en redonnant du temps au temps, alors on a beaucoup plus de place pour s'aimer soi-même, aimer son prochain, être attentif à l'autre. Et c'est aussi une des clés, je pense, d'un monde vivable.
C'est Satish Kumar, ce prêtre jain, qui dit « Whatever the question is, the answer is love ». Peu importe la question, la réponse est l'amour. Je reviens quand même au sujet qui nous occupait au départ, c'est-à-dire le travail du réchaud, de restaurateur solidaire et engagé. Vous avez continué à être restaurateur, mais vous êtes aussi devenu formateur. Il y a eu beaucoup de collectivités, de métropoles, des hôpitaux qui sont venus vous voir pour arriver à s'inspirer de votre modèle, hein. Vous avez réussi à propager ce modèle-là.
En 2030.
En 2030, glorieuse, oui. Bien sûr. Comment vous avez fait ?
En 2030, on a réussi à influencer, en tout cas, un sujet qui n'est pas rien, c'est la restauration collective. Et c'est un gros levier, la restauration collective de transition, en transformant en effet les écoles, les hôpitaux, la restauration dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les entreprises. On est parvenu à être un levier de la transition écologique parce qu'on travaille main dans la main avec des producteurs qui ont transformé leur production pour répondre à une charte éthique et écologique qu'on a posée. On s'approvisionne directement auprès d'eux. Ils savent du coup ce qu'ils doivent produire entre 1 et 3 ans à l'avance. Et on nourrit des personnes qui sont des personnes particulièrement fragiles, que ce soit dans les hôpitaux ou que ce soit dans les écoles, grâce à une alimentation très saine et pleine d'énergie. Et c'est devenu un modèle tellement évident qu'on se demande comment ça a été avant.
Absolument. En fait, on a complètement changé de manière de voir cet argent qui était dépensé et vu comme un coût. On l'a désormais, on le voit comme un investissement. Un investissement, comme tu le dis, auprès des personnes les plus fragiles, que sont aussi les jeunes, auprès des agriculteurs et de tous les artisans qui sont dans le territoire, dans ce maillage local hyper puissant qu'on investit, qu'on renforce, mais aussi parce que cet argent, il est là. On le dépense tous les jours, presque plusieurs fois par jour pour nourrir ces personnes, des millions de personnes en France. Et cet argent, il peut bénéficier et faire d'une pierre deux coups pour en plus être vecteur de solidarité et d'intégration.
Et on économise triplement puisqu'on achète un coût qui est juste et non pas avec des externalités négatives cachées.
C'est meilleur,
cachées.
Donc il y a moins de gâchis alimentaires.
Il y a moins de gâchis alimentaires et on préserve la santé de la population. Donc on a beaucoup moins de frais engagés sur le médical. Quoi, les chiffres en 2022 sont hallucinants puisque on a une augmentation depuis 2019 de 18% des cancers chez l'enfant, une augmentation de 20% des cancers chez les adultes. Quand on sera parvenu à changer l'environnement et l'alimentation, il y aura beaucoup moins de coûts engendrés sur la santé aussi.
Avec une alimentation variée, saine, locale, de saison et aussi de plus en plus différente parce que forcément les personnes qui viennent préparer ces plats venant du monde entier ont comme ça tout un tas de plats, de recettes
qu'il faut amènent. Parfois aussi un peu réorienter parce qu'on n'est pas sur les cuisines les plus légères ou les moins chaudes qui soient. Mais en tout cas, il y a du goût.
C'est quoi le plat préféré des Français en 2030 Glorieuse? Avant, tu sais, on disait que c'était le couscous. Et puis ensuite, en 2022, on disait que c'était peut-être la raclette.
La raclette
Si, si, on avait les plats un peu bien franchouillards.
Écoute, en 2030,
c'est quoi
les plats, en tout cas, emblématiques de la cuisine française seront des plats faisant la part belle au végétal. Donc, ce sera... je sais pas. Peut-être des petits légumes farcis. Voilà.
Toi, Vanessa, tu fais quoi en 2030, Glorieuse? C'est encore plus difficile.
C'est dans 8 ans, c'est ça.
sur le plat préféré des Français, ça.
Peut-être. Peut-être que je fais un lieu. Dans la continuité de ce qu'on fait actuellement, un lieu où il y ait à la fois de la culture, où il y ait à la fois de la permaculture, où il y ait à la fois de la cuisine, évidemment, des rencontres, du partage, des animaux et des enfants.
Un lieu vivant.
Un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu beau. J'ai envie de beau, en fait. J'ai envie d'harmonie.
Ça sera sans doute un tout petit peu plus le bordel en 2030 Glorieuse, mais ça sera aussi vachement plus beau.
Plus le bordel encore. Merde. Attachez vos ceintures.
Un beau bordel. Je crois que le vivant, il est un peu bordélique et il faut accepter ça.
Non, mais attends, le grand réchaud, le projet que porte l'association d'essaimage région, je dis toujours, c'est un joyeux bordel. Et c'est chiant quand c'est juste le bordel, mais quand c'est joyeux, c'est chouette.
De retour en 2022. On, okay. on est en 2022, là, ça y est, on sent le poids de notre corps sur, sur la chaise, la grisaille qui apparaît par la fenêtre. Qu'est-ce que tu suggérerais comme pas supplémentaire aux personnes qui nous écoutent pour cheminer vers les 2030 glorieuses qu'on a tenté de dessiner ensemble ? Qu'est-ce que tu leur conseillerais comme action très concrète à mettre en place dès demain ?
De se poser des questions.
Mmh.
De se poser des questions et d'aller chercher les vraies réponses. Et...
sans compromis, donc.
Sans compromis. Je pense que, là encore, le mal du siècle, la complaisance. Pas de complaisance, ni vis-à-vis de soi, ni vis-à-vis du reste. Mais vraiment, pas de complaisance vis-à-vis de soi. D'avoir le courage et l'honnêteté de regarder où on en est, ce à quoi on contribue, et de faire ses choix en pleine conscience, en essayant de nettoyer au maximum. Enfin, je veux pas. Enfin, ouais, de nettoyer. De nettoyer et de se tourner vers. Vers l'amour de soi, des autres, et d'utiliser la cuisine, d'utiliser ces moments de, où on restaure nos corps comme un moment où on vote. On vote pour 2030. Glorieuse.
Merci Vanessa.
Merci Julien.
Et voilà, cette interview avec Vanessa Krisev est terminée. Merci d'être restée jusqu'au bout de cette interview vraiment, vraiment, vraiment passionnante parce que Vanessa, vous l'avez sans doute entendu comme moi, elle est habitée. Elle dégage une énergie absolument folle. Et dès qu'elle se met à parler du réchaud, on sent que bah là, clairement, c'est son bébé, c'est sa vie. Mais c'est une vie qui est riche, une vie riche de rencontres, une vie riche de ces plats délicieux qu'elle prépare avec son équipe chaque jour. Et du coup, moi, ça me plaisait à deux niveaux de lui donner la parole. Ça fait longtemps que je suis ce que fait le réchaud, que je connais Vanessa. Donc, j'étais content de lui donner la parole pour, effectivement, déjà, l'idée d'incarnation, l'idée de joie, l'idée de cette pulsion de vie qui nous remplit quand on fait un métier de demain. Et je trouve qu'elle, elle le laisse transparaître vraiment très bien. Et puis, en plus, ce qui me plaît, même si c'est vrai que j'essaye de pas trop le faire, c'est de mettre en avant des métiers liés à l'alimentation. Parce que dans le domaine de l'alimentation, en fait, on a vraiment des leviers extraordinaires à la fois pour protéger le vivant, faire en sorte qu'on revienne à une alimentation plus locale, plus végétale, plus de saison. On a l'idée de goût, de contemplation du miracle du vivant, mais on a aussi du coup tous les jours, trois fois par jour, comme elle le dit, l'occasion de voter pour le monde qu'on a envie de voir advenir le plus rapidement possible. Et en plus, avec cette thématique-là, en l'occurrence, qui est un axe fort du réchaud, une thématique sociale, puisque, encore une fois, le réchaud, c'est aussi un restaurant d'intégration où des personnes peuvent, voilà, avoir cette formation, cette expérience qui va leur permettre derrière d'accéder à un métier digne, un métier décent. Et cette écologie qui... prend la main du social, c'est vraiment cette écologie que je vois moi en tout cas dans cette République du vivant et qui est de plus en plus mise en avant dans les épisodes des 2030 Glorieuses. Je vais continuer à tirer ces ficelles, je vais continuer à vous proposer des parcours inspirants comme celui de Vanessa et donc forcément je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuses avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !